Seigneur, je te célèbre. Je t'élève dans mon cœur. Je te bénis. Et je te donne toute la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être loué et adoré. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul vrai Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé l'homme. Et tout ce qui existe dans ce monde. Et nous voulons, Seigneur, te proclamer. Dis tout haut et fort que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, tu bénis ton peuple par cette parole. Tu bénis cet instrument qui se tient devant ton assemblée, qui compte sur ta grâce pour parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la louange et l'adoration. Tu es merveilleux. Nous sommes encore dans 2 Rois 4, 1 à 7. Je lis pour nous tous. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma sa porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Nous continuons avec le même thème. Être membre dynamique de la communauté des serviteurs. La famille, c'est aussi une communauté, n'est-ce pas? Et elle peut être une communauté de serviteurs. Dans toute société, chaque membre a sa part de responsabilité. Et en considérant ce passage, nous avons des leçons à tirer sur la responsabilité des uns et des autres dans la famille. Ici, on nous parle du père qui n'était plus, qui n'existait plus, il était mort. On nous parle de la mère. On nous parle des enfants. Nous voulons premièrement considérer la responsabilité du père. La Bible reconnaît que le père est le chef de son foyer. Dans Éphésiens 5, verset 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc le mari a le devoir de diriger. L'homme, le père, a le devoir de diriger sa maison convenablement. En sa qualité de chef, il doit être transparent et servir de modèle aux enfants et aux autres personnes qui, en retour, vont l'imiter. Un bon mari sera imité par les autres. Il sera un modèle. Un bon père sera aussi un modèle. En tant que chrétien, nous devons être des modèles. Mais je pense que ce père ici a failli. On dit qu'il craignait Dieu, mais il avait des dettes. Des dettes qui ont coûté cher après lui, à sa famille. Le créancier est venu pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. N'eût été la grâce de Dieu, ses enfants seraient devenus des esclaves. Au lieu de léguer à ses enfants un bon héritage, il leur lègue des dettes. Il y a des gens, il y a des familles qui ont été surprises. Après la mort du chef de famille, on vient déguerpir tout le monde. On dit que cette maison a été vendue. Et les enfants sont dehors. Et la femme est dehors. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous avons un modèle, c'est Christ, que nous devons imiter. Christ est mort pour son Église, qui est considérée comme son épouse, comme sa femme. Je ne sais pas si ce mari était transparent, si sa femme savait ce qui se passait, si les enfants savaient. Mais en réalité, on doit être transparent. Et une personne transparente vit de façon ouverte. Ce n'est pas un cachotier. Elle pose intentionnellement des actes qui aident les autres à se rapprocher de Jésus. En vous observant, chacun peut tirer des leçons. C'est pourquoi chaque père doit marcher selon la parole de Dieu. Il y a le mauvais exemple d'Élie, le sacrificateur. Lui-même craignait le Seigneur. Il était sacrificateur, un homme respecté. Mais ses enfants, c'était la négation de sa foi. Il piquait des morceaux dans les sacrifices qu'on offrait à l'Éternel. Ses enfants couchaient avec des femmes dans les temples. Lui-même était le modèle, mais les enfants. Vous venez à l'église, mais comment sont vos enfants? Vous voulez sauver votre âme et l'âme de vos enfants. On ne se rend pas compte. Et nous savons ce qui est arrivé à Élie et à ses enfants après. Ça, c'est un mauvais exemple. Il y a aussi l'exemple de David. David a su faire des conquêtes. C'était un guerrier. Il aimait le Seigneur. Et nous voyons David a composé des cantiques dans la Bible. C'était un grand roi redouté, mais il n'a pas pu conquérir le cœur de ses enfants. Il y avait l'inceste dans son foyer. Il y avait des meurtres dans son foyer. Quelle responsabilité. Un père doit être responsable. Il y a des gens qui sont respectés en dehors de la maison. Ça, c'est un grand monsieur. Mais quand on voit ce que l'enfant fait, c'est l'antithèse de sa vie. Je ne sais pas si ses pères étaient vraiment responsables. Le père qui est le chef du foyer doit pourvoir aux besoins de sa maison. Aux besoins de sa maison. Dans 1 Timothée 7, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle, pire qu'un inconverti. Je pense que ça ne se fait pas dans l'église. Mais il y a des parents qui laissent la maison affamée, mais qui, avec un peu d'argent, se retrouvent quelque part et ils sont plus sur les ventes. Et ils se saoulent. Heureusement que ça, ce n'est pas dans l'église. On ne trouve pas ça dans les églises. Parce que dans les églises, il y a des gens responsables. Amen. Comment on peut manger dehors? Se saouler et laisser la famille affamée. Là, on n'est pas responsable. Les pères pourvoient aux besoins physiques, aux besoins matériels et financiers, et aux besoins spirituels. Dans Éphésiens 5, versets 28 à 29, Paul dit, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. » Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Être responsable, c'est être capable, c'est être en mesure de prendre les autres en charge, de les aider. Le mari, à l'instar de Christ, se sacrifie pour sa femme et pour ses enfants. Si tu n'as rien, tu ne peux pas faire un miracle, bien sûr, mais tu peux donner ton amour. Tu peux donner ton affection. C'est aussi une façon de prendre soin. Le père doit diriger sa maison convenablement. Dans 1 Timothée 3, 5, la Bible dit, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» N'est-ce pas que beaucoup veulent servir dans des églises? On dit, « Mais il faut venir écouter la parole de Dieu. Ici, c'est la parole pure. » Il dit, « Non, non, non. Moi, j'ai une responsabilité là dans mon église. C'est bien. Mais comment est conduite ta maison? Comment ta maison est conduite? Chacun pour soi, le diable pour tous. Et on va à l'église. Un père responsable doit penser à l'avenir de ses enfants. Il doit les sécuriser. Éviter de leur léguer des dettes. Mais imaginez, on vient vous déguerpir. Parce que papa avait une dette qu'il n'a pas payée. Et on vient confisquer la maison. Ça, c'est dangereux. Le père est le chef du foyer, chef des familles, le pasteur de sa maison. C'est lui qui a le fardeau de l'avenir et de l'éternité de ceux de sa maison. Il entretient les cultes familiales et fait tout pour que les siens dans sa maison connaissent Dieu. Ça, c'est la responsabilité du père. Il paye les études, il aide les enfants. Et gloire à Dieu. J'apprends chaque fois, tel a envoyé ses enfants, tel a envoyé ses enfants, ou son enfant, ou son fils, ou sa fille, pour aller étudier. On investit dans les enfants. Pas dans la boisson. Pas dans les femmes. Mais dans les enfants. On peut ne pas avoir de maison, de building. Mais si on éduque bien les enfants, plus tard les enfants peuvent vous acheter des maisons. Ça, c'est la responsabilité du père. Et le père de 2 Rois 4, 1 à 7, je crois qu'il a failli un peu à sa responsabilité. On dit qu'il craignait l'Éternel. C'est bien. Élie craignait l'Éternel. David craignait l'Éternel. Mais dans la maison, il y avait quelque chose. C'est ce que nous devons éviter. J'aime la Bible parce que la Bible nous montre tout. Les bonnes et les mauvaises choses. Amen. C'est pour qu'on soit instruit. Voyons maintenant la responsabilité de la mère. La femme a été créée comme aide pour son mari, pour l'homme. Une de ses tâches, en tant qu'aide, est d'assister son mari. Elle est son assistante. Elle se tient aux côtés de son mari pour le seconder. Elle est fait en s'occupant des tâches domestiques. Elle peut avoir un job, travailler, mais c'est elle qui doit diriger la maison. Elle doit apprendre à la bonne ou au domestique à bien entretenir la maison. Si toi-même tu ne sais pas entretenir ta maison, sache que le domestique ne fera rien de bon. Parce que c'est toi qui dois lui montrer des choses à faire. Si tu ne sais pas préparer, elle va préparer comme elle veut. Il y aura toujours des problèmes avec le mari. La femme peut aussi payer les frais de scolarité, suivre les enfants dans les études. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Maman en a chanté. Qu'est-ce que vous avez chanté? Montre ton cahier dès le bas âge. Mais papa aussi peut venir. Occasionnellement demander, montre-moi ton cahier. Mais c'est surtout la tâche de la maman. Même si tu vas travailler, tu reviens, tu dois demander ce que les enfants ont appris à l'école. C'est important. En fait, la mère complète le père. Elle doit être une bonne assistante. Pas soumission au mari, elle va apprendre aux filles à se soumettre aussi lorsqu'elles seront mariées. Lorsqu'une femme, une mère ne se soumet pas à son mari, c'est un mauvais exemple qu'elle donne à ses filles. Elle doit apprendre à ses filles à préparer. À préparer. Il y a des filles qui rentrent dans le mariage sans savoir préparer même du riz. Ne parlons pas du foufou. On prépare du foufou. Ah, et bébé. Foufou et tébi. Elle n'a pas appris à préparer. Écoutez-moi, chère maman, cher papa. On n'apprend pas à un enfant la bourgeoisie. On apprend à un enfant la vie prolétaire. L'enfant doit apprendre à travailler. Même si tu as des domestiques, l'enfant doit apprendre à travailler dans la maison. Et même les garçons, on doit leur apprendre aussi, quelquefois même à préparer. Parce que quand ils vont quitter le pays et qu'ils iront ailleurs, qui préparera pour eux? Ils doivent apprendre à laver leurs habits seuls, même si vous avez des domestiques. À un certain moment, il faut qu'ils apprennent cela. Et après, bon, à un certain âge, le domestique peut le faire. Mais si l'enfant ne sait rien faire à la maison, il ne saura rien faire ailleurs. Elle doit apprendre à tous les enfants à se soigner, à arranger les lits. Si toi-même tu arranges les lits. Il y a des gens qui sont partis, n'ont pas arrangé leur lit ce matin. Et la femme est une bonne conseillère pour son mari. Une bonne conseillère. Lorsque le mari s'énerve, se fâche, tu es là pour la calmer. Tu pries pour ton mari et le mari prie pour la femme. Mais il y a des femmes qui envoient leur mari faire des dégâts. Il y a Kanishi aux ambalités, là qui saille. Après, il y a des dégâts. Dans Acte 5, nous voyons que Saphira était une mauvaise assistante. Si elle ne s'était pas associée à l'hypocrisie de son mari, la mort ne serait pas rentrée dans leur foyer. Et Saphira et Ananias, les deux sont morts du coup, l'un après l'autre. Quand le mari dit, non, on va faire ceci, on va faire cela, il faut dire, mais prions, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Ananias a vu que on avait loué Barnabas. Les apôtres étaient contents de l'acte que Barnabas avait posé. Ananias lui va dire aussi, nous allons vendre notre champ. Et nous allons faire comme Barnabas. Il retire une partie. Alors qu'ils avaient la possibilité, ils pouvaient dire, nous avons retiré une partie, nous vous avons donné une partie. Mais ils ont fait semblant, ils ont montré comme s'ils avaient tout donné. Et la mort les a emportés. Mes sœurs, soyez des bonnes conseillères pour vos maris. Maintenant, considérons la responsabilité des enfants. Les enfants aussi leur part. Premièrement, chaque enfant, chaque jeune, doit savoir que le foyer est le véritable lieu d'apprentissage pour toute notre vie. C'est la première école. Nous apprenons les notions élémentaires de la vie, le respect des autres, le respect des personnes âgées, le respect de son prochain, l'amour de son prochain, l'amour de l'autre, bien sûr. On apprend aussi le travail dans le foyer. Et nous apprenons aussi à nous supporter mutuellement. Deuxièmement, l'amour parental s'exprime par le fait de prendre soin de ses enfants. Cela s'exprime par des conseils qu'on donne. On prend soin en payant les études, en nourrissant l'enfant. Cela s'exprime aussi par des petits cadeaux. Si on a des moyens, on peut fêter l'anniversaire pour son fils, sa fille. Mais cela s'exprime aussi par la punition. Quand l'enfant agit mal, on le punit. On le punit. Et ça, ça manque aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a beaucoup de chégués. Il y a l'histoire d'un enfant qui était borgne. Il avait un nez crevé. Cet enfant, quand il était tout petit, il jouait avec un couteau. Et la maman est venue arracher le couteau. Et l'enfant s'est mis à crier, à pleurer fort. Et puis la maman a eu pitié de l'enfant. Il a remis le couteau à l'enfant. Elle a remis le couteau à l'enfant. Et l'enfant a mis le couteau dans l'œil. Et l'enfant est devenu borgne. Plus tard, quand l'enfant sera grand, on va lui expliquer l'histoire. Et elle a dit à sa maman, et c'est ça être une maman? C'est toi qui m'as rendu de mauvais services. Et elle a dit à sa maman, bye bye, elle est partie de la maison. C'est après qu'on se rend compte qu'on a rendu de mauvais services. On ne peut pas donner à l'enfant tout ce qu'il demande. Et si l'enfant pleurait pour que tu lui donnes le soleil? Que ferais-tu? Il faut dire non à l'enfant. Il faut le corriger. Il fait un peu de fessée. Et c'est comme ça que l'enfant va croître. Ne suivez pas ce que les Blancs nous disent. En Europe, là, on ne peut pas taper un enfant. Tu oses toucher à l'enfant, l'enfant appelle la police. Ici, c'est difficile, c'est autrement. Il y avait un parent ivoirien, avec ses enfants, c'était terrible. Il tape et l'enfant appelle la police. Et il a dit aux enfants, à ces garçons, on va chez nous en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés à Abidjan. Ils sont allés à la maison. Il a dit, ici, tu vas apprendre l'éducation. Tu vas appeler la police encore. Et l'enfant était bien corrigé là-bas. L'éducation, c'est ici. Tout ce qui nous vient de l'Occident n'est pas toujours bon. Parfois, c'est des pantalons ici. Il y en a ceux qui ont des pantalons ici ce matin dans l'église. En dessous des fesses. Et on marche.
Non! On ne doit pas imiter les mauvaises choses. Ce sont les bonnes choses que nous imitons. Troisièmement, tout enfant est appelé à quitter les ordres des parents. Va faire la vaisselle. Va faire la lessive. Va acheter, va faire tel achat. L'enfant obéit à cause de son amour et du respect qu'il a pour ses parents et par obéissance aussi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande d'obéir à nos parents dans le Seigneur. Joseph a été envoyé par son père lorsqu'il a été attrapé par ses frères. Mais je me dis que Joseph a eu la vie sauve parce qu'il avait écouté son père aussi. Il avait obéi. Et il est parti. Et finalement, on n'a pas pu le tuer. Il avait obéi. C'est un aspect que nous oublions. Quand tu obéis aux parents, personne ne peut te toucher. Parce qu'ils ont un pouvoir. Ils ne regrettent pas ton sujet, ils ne s'inquiètent pas, ils sont fiers de toi. Et si ce sont des chrétiens, ils prient pour toi. Il y a des enfants, les parents lui parlent. On fait comme ça. Tu t'attires la malédiction. On ne fait pas ça aux parents. Et même David a été envoyé par son père. Pour voir ses frères. Mais puisqu'il a accepté l'ordre de son père, va voir tes frères. Il est arrivé là-bas. Et il a connu la promotion. Alléluia. Il a accepté l'ordre de son père. Et il a eu la promotion. Dieu est venu en aide à David. Il a terrassé Goliath. Mais plus tard, David est devenu roi. Rebecca aussi était envoyée par ses parents pour aller abreuver les chameaux. Mais puisqu'elle a accepté, c'est là qu'elle est allée trouver le serviteur d'Abraham qui cherchait la femme pour Isaac. Écoutez-moi, frère, jeune frère, obéissez à la parole de vos parents. Quand ils vous demandent de faire quelque chose, surtout dans le Seigneur, faites cela. Cette parole est accompagnée d'une puissance. Les fils de la veuve sont allés chercher des vases dans tous les quartiers. Ils lui présentaient des vases. Et elle versait l'huile. Donc, cette veuve travaillait. Elle a cherché des moyens pour faire vivre ses enfants. Et les enfants se sont impliqués. Il y a des jeunes filles, la maman va vendre au marché, du matin au soir. Elle vient avec quelque chose à préparer. Nagula mbaranate. Mais implique-toi. Aide ta maman. Aujourd'hui, en plus des études, chaque enfant doit participer au travail de la maison. Chaque enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu les différentes parts de responsabilité dans le foyer. Dans le foyer, les responsabilités sont partagées. Partagées. Le père est le premier responsable du foyer et doit assumer sa responsabilité correctement. La mère est l'assistante du père et doit être une bonne aide. Et enfin, les enfants ont besoin d'écouter les parents, d'obéir aux parents, de les respecter pour être bénis. Amen. Nous allons prier. Dans ce passage, bien-aimés, que nous avons lu, ce passage que nous enseignons depuis passablement 3 semaines, 3 dimanches, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Si Dieu t'a parlé, frère, sœur, et que toi tu as besoin de prière, tu peux lever ta main. Nous voulons prier pour toi. Merci. Pour les mains levées. Il n'y a pas de spectacle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons nos yeux fermés. Et nous levons nos mains pour ceux-là qui veulent qu'on prie pour eux. Pour arriver à faire tout cela, on doit avoir une bonne relation avec le Seigneur. Une bonne relation. On doit avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si tu n'as pas aussi Christ dans ta vie, tu peux aussi lever ta main. Frères, sœurs, vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever, s'il vous plaît, là où vous êtes. Je vais vous voir. Des parents qui irritent les enfants. Ça, ils insultent, ils énervent. Ce n'est pas aussi une bonne chose. Les enfants ont besoin de votre affection, de votre amour. Va prendre toi-même. Nous voulons prier pour vous. Papa Ernest, venez sur vous.
Ce matin, Seigneur, nous sommes là. Permets que choses-là. À quelque niveau que nous soyons, Père, Mère, Enfant, ce matin sera toi que nous nous abandonnons. Viens nous toucher, Saint-Esprit, touche-nous, afin que nos vies soient transformées et que nous produisions le fruit digne de la repentance qui passe par l'obéissance et la soumission à ta parole. Seigneur, aide-nous, il n'y a pas moyen de toucher. Si nous ne nous soumettons pas à ta parole et à tes principes que tu as institués, nous serons morts. Mais tu n'aimes pas notre mort. Merci de nous guérir ce matin. Et surtout, merci de bénir ton serviteur. Seigneur, il ne fait que creuser. Oui, la profondeur appelle la profondeur. Il creuse